Polysécure, épisode plus technique. Je suis accompagné de Alex.
Bonjour, bonjour.
Ça va bien?
Toujours bien, même s'il y a une affreuse tempête dehors, mais on est à l'intérieur, on est au chaud, puis on discute de choses encore plus terribles. Fait que...
Techniquement, elle est presque terminée. Dans les faits, au moment de l'enregistrement, mais bon, c'est vérifie pas. Il y a juste quelques petits flocons, il n'y a plus de vent horizontal. Bon, c'est ça, vivre au Québec, ça fait partie des plaisirs, mais le fait de travailler à la maison a l'avantage de ne plus se risquer sur la route.
OK, oui.
Aujourd'hui, on va parler de la surface d'attaque, parce que Palo Alto a sorti un rapport très intéressant sur ce que c'est. Je vais te laisser m'adresser le rapport lui-même, mais le fait des surfaces d'attaque, c'est très intéressant parce que c'est un nouveau vocable qu'on utilise et qui est beaucoup plus complet et beaucoup plus global sur comment on regarde la posture de sécurité des organisations. Avant, on faisait juste la gestion de vulnérabilité. Maintenant, vraiment, surface d'attaque, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus important et d'ailleurs, on devrait tous commencer à s'y intéresser parce que ça a des conséquences très importantes et insoupçonnées parce qu'il y a des liens qu'on ne fait pas. Et ce rapport-là est super sharp parce que justement, il nous permet de faire des liens et de voir de parfois à quel point la situation est plus désastreuse qu'on pourrait le penser. Je te laisse commencer.
Génial. Donc, surface d'attaque, qu'est-ce qu'on va jaser aujourd'hui? Comme on dit, les projets souvent Zero Trust ou les tests de pénétration, on va tester vraiment ce qu'on connaît. Fait qu'une application de mission, un service critique. La surface d'attaque, on va souvent documenter les choses qu'on ne connaît pas. Et pour jaser d'expérience, on trouve toujours quelque chose. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on se place du point de vue d'un attaquant et on regarde la surface d'attaque d'une compagnie, incluant ses adresses IP, ses noms de domaine, ses actifs infonuagiques, ses différents actifs au niveau de la chaîne d'approvisionnement, ses infrastructures exposées. Et par la suite, on documente le tout. Ça prend à peu près 2 semaines à faire, 3 semaines, dépendamment de la grosseur de l'entreprise. Et on est capable de vraiment montrer qu'est-ce que on a réellement d'exposé sur un périmètre d'entreprise réel. Le produit qu'on utilise chez Palo Alto, c'est Cortex Expense. C'est l'outil qui utilise la défense américaine et la défense canadienne pour mapper l'entièreté de leur surface d'attaque et également s'organiser que tout ce qui est présent peut être documenté et aussi remédié par le fait même, parce que c'est bien de savoir qu'il y a des choses en problème, mais on a de la remédiation qui est aussi inclue dans nos technologies. Jason présente maintenant du rapport qui est le gros crunchy, le fun. On a fait un rapport en 2022 par Palo Alto qui ne sont pas des données de sondage. C'est vraiment des entreprises avec des données de télémétrie qu'on a engrangées sur à peu près 100 d'organisations au travers du monde, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie. Donc, on a scanné environ un petit peu moins qu'1% du scope IPv4 mondial pour donner une idée à peu près là, de la portée que ça a. Et on a également observé, parce qu'avec ça, on est capable de documenter puis de voir s'il y a des expositions basées sur des CVE et sur différentes menaces qui peuvent être exposées et les types de services. Et on en est venu à plusieurs constatations pour qu'on va en discuter. Donc, constatation numéro 1, les vulnérabilités qui ne sont pas des Zero Day sont présentes partout. Et là, ça va en surprendre beaucoup plus d'un. Sur un total d'à peu près, comme je dis, 100 organisations, moins d'1% du global IPv4 space, 25% des problèmes qu'on trouve dans une organisation sont des serveurs RDP directement exposés sur Internet.
L'hygiène de base, c'est terrible. On est encore en 2023 et l'hygiène de base n'est même pas faite. On s'explique, j'aime ça justement, tu parles du non-0D. On s'excite encore avec les 0D faites par les Russes qui viennent casser un système très précis quand dans les faits, la réalité, elle est tout autre et probablement beaucoup plus importante dans d'autres éléments.
Exact. Donc, le corps totalement d'une surface d'attaque, ça veut dire qu'une organisation a probablement des services exposés qu'elle ne connaît pas, qui sont du RDP. On connaît très bien le protocole. On sait à quel point qu'il est permissif, qu'il est souvent attaqué, qu'il y ait des CVE qui sortent relativement souvent sur ce type de protocole-là. Et c'est absolument terrible d'en avoir encore une surface d'attaque qui est basée à un corps là-dessus. La deuxième, c'est tout ce qui est les portails les portails de gestion ou les systèmes d'infrastructure de réseau et sécurité. Fait que les outils qu'on utilise de télécom, de sécurité ou de protection ont souvent des portails qui sont exposés, soit à la connaissance d'une organisation ou non, et c'est directement sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? S'essayer pour rentrer, puis peut-être avoir des privilèges qui sont permis, ou utiliser bien sûr des CVE qui sont souvent connus, qui nous permettent de partir la porte d'entrée. On n'est même pas en train de brute forcer un VPN, là. C'est directement sur Internet. N'importe qui peut s'essayer.
Oui, c'est ça. Souvent, c'est un signe si justement ce genre d'infrastructure-là ou ce genre de console de gestion-là est disponible en ligne. Il est fort probable qu'elle ne soit pas à jour et soit très fort probable que justement il y a des CVE plus ou moins récents qui soient possibles justement pour casser la sécurité associée, là.
On en avait jasé un peu dans le dernier rapport là, qu'on avait fait ensemble pour Unit 42, mais il y avait même des services de VPN SSL ou des services SaaS qui possédaient directement des vulnérabilités avec leur portail de gestion qui permettait de passer tout simplement par la porte sans avoir jamais une seule authentification qui apparaît. Donc, c'est une chose à contrôler. Continuons dans le top 5. On arrive avec le troisième enjeu qui est le stockage et les outils d'analyse de données. Et ça, pour des données at rest, ça ne devrait jamais être exposé directement sur Internet. On devrait être derrière un VPN en tout temps parce qu'il y a de la propriété intellectuelle qui est possible d'avoir là-dessus. Il peut avoir des données nominatives. Il pourrait avoir des lois et règlements qui régissent tout ça. Alors que 16% de ce qu'on a trouvé sur les organisations avaient ce genre de système-là exposé sur Internet à large.
Ah, ça, c'est terrible. C'est terrible parce que justement, il n'y a pas si longtemps que ça, puis même très récemment, j'ai dû expliquer aux gens de ne pas exposer directement des bases de données sur Internet. Mais ça leur semblait beaucoup plus facile de faire comme ça. Mais ils disent non, mais faites pas ça. Il y a du monde qui va venir frapper sa porte. C'est sûr, faites pas ça. Puis en info, nous autres, c'est dans un contexte infonologique dans ce cas-ci, mais c'est juste du big no-no. Mais ça ne semble pas avoir été bien assimilé par la plupart des gens. Puis de toute façon, puis par rapport à ça, il y avait MongoDB qui avait été mis dans les médias il y a environ 1 ou 2 ans de tout ça. Elasticsearch a aussi été largement aspergé ou éclaboussé du fait que c'est les gens qui l'utilisent étaient mal configurés. Donc, on revient exactement à cet élément-là qui est encore malheureusement très élevé.
Et on parle aussi tout simplement d'exfiltration de données qui peut avoir lieu sans avoir eu une seule authentification possible parce que le service est exposé directement sur Internet. Quand on se plaît à dire qu'on a une « Ah, je veux conserver mes données au Canada », si on peut être au Canada, si tu ne sécurises pas correctement puis tu penses qu'un service directement sur le web est suffisant, on en est loin là de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Damn. On continue avec notre top 5 et ça c'est plus c'est ce qui surprend. Je vais dire pas le plus, mais on va jaser des systèmes de contrôle de bâtiment et les IoT. La chose que les gens ne savent souvent pas, c'est que les IoT sont souvent mis dans un sous-réseau, sont souvent isolés quelque part et on leur donne full accès à Internet. Ces IoT-là sont souvent installés. Il y a très, très peu de mise à jour qui est faite. Ça contrôle la température, ça allume une lumière, ça marche, on n'y touche plus. Ils ont souvent des systèmes de contrôle à distance, des portes dérobées ou des versions désuètes. Ça roule souvent sur des petits Linux light ou des petites versions de systèmes très compressés qui permettent de prendre contrôle souvent. Puis c'est directement sur Internet que les firmes qui gèrent tout ça y aient accès. Et à peu près 13% des problèmes trouvés, c'était des systèmes de contrôle du bâtiment ou des IoT avec des portes dérobées.
C'est assez énorme, puis j'en ai vu, puis je sais qu'il y en a, pas très loin de chez moi, entre autres, qui font ce genre de choses-là. Mais c'est parce que, puis en même temps, puis là, un peu, je vais mettre le blâme sur les gens en cyber, c'est que les gens qui déploient ça sont généralement les gens du bâtiment qui ne sont pas au conscient de ces éléments-là. Fait qu'il faut les amener à peut-être comprendre et à les éduquer justement pour exposer parce qu'eux pensent bien faire, mais ils ne comprennent pas tout ce qu'ils peuvent s'exposer jusqu'à temps que ça leur expose en pleine face. Mais je pense qu'on a un effort de sensibilisation à faire auprès de ces gens-là et les ramener dans le périmètre de réflexion de la cyber et de contrôle des différents actifs qu'on a sur les choses. Mais il demeure que je suis pas étonné, j'en connais qui sont pas très loin de chez moi, qui ont je n'aurais pas le logiciel, mais il y a une espèce de logiciel de prise à distance qui est bien installé, qui permet justement de contrôler l'ensemble des bâtiments du parc de cette compagnie-là.
C'est souvent des équipements qui peuvent être classifiés comme critiques. Si on prend le fait qu'une caméra peut espionner, si on prend le fait que des contrôleurs de porte d'accès peuvent donner accès physique au bâtiment, puis que c'est souvent les devices qu'on va avoir le moins de visibilité ou le moins de contrôle, puis qu'ils ils sont pas derrière un pare-feu. Là. Le fait qu'on les trouve et qu'on les voit que c'est possible, c'est qu'ils ont des portes qui nous permettent d'essayer. En prenant compte que c'est des services critiques qu'on pourrait arrêter de la clim ou empêcher un service d'incendie de faire un appel, je veux dire, c'est majeur, là.
Ouais, ou de couper la clim dans une salle de serveur peut être assez critique comme situation.
Ou de démarrer les JPR dans une salle de serveur pendant qu'il y a encore des gens dedans. Mais bref, on s'entend qu'il y a beaucoup d'imagination qui est possible quand on est rendu jusque-là. Et on va terminer sur notre dernière constatation sur de façon générale. Et ça, c'est absolument aberrant. 4 % OK, on part avec « Ah, c'est juste 4 % mais tous les problèmes observés, c'était à des connexions non chiffrées. Fait qu'on parle de tout ce qui est possible d'observer d'un point de vue externe sans aucun chiffrement pour être des pages d'administration web HTTP, pour être des services FTP avec des logins possibles. Je veux dire, on est en 2023. Ça devrait pas exister. Puis ces services-là sont souvent des legacy, donc ça peut être des vieux systèmes qui sont très faciles d'exploiter, puis très facile de voler des informations d'identification sur n'importe quel système qui n'est pas chiffré. Donc, en clair, sur des réseaux publics comme Internet, non. Mais 4 % des trouvailles ont été dans ce sens-là.
Mais ce qui est effrayant là-dedans, puis ça, c'est des constats qui sont faits sur, tu disais, 1 % des adresses IP disponibles, donc publiquement, rien, aucune information privée. C'est si on regardait à l'intérieur des organisations, parce que ça, c'est des publics, ça, c'est la pointe visible de l'iceberg. Ça fait très peur sur l'autre partie de ce qu'il peut y avoir. Là.
Les grosses attaques, en plus, qui ont eu lieu en 2022, c'était, je pense, les statistiques étaient sorties, c'était au-dessus de 90 % des attaques authentifiées. Donc, basées sur du MFA fatigue ou basées sur n'importe quelle méthode de rentrer dans une organisation. Puis après ça, ça doit être encore pire de l'interne. Ces systèmes-là ont des pages HTTP d'authentification de l'externe. Je veux même pas savoir c'est quoi de quoi qui dépend à l'interne, mon Dieu.
Oh là 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 là.
On va continuer avec un petit peu un constat que nos équipes en sont venues avec ce beau démarrage, cette entrée en bouche-là, c'est que la surface d'attaque d'une organisation va changer constamment. On pense que c'est quelque chose qui est relativement fixe du fait qu'on déploie quelque chose, on fait un projet, on laisse ça là, 3 ans après, on est désuet, on rechange. Mais ce qu'on voyait dans l'espace d'un mois, c'est un changement qui varie beaucoup d'un type d'entreprise à l'autre. Pour donner quelques exemples, disons, dans le monde de l'énergie et des utilitaires, une surface d'attaque change à peu près de 6 % par mois. Donc, des choses vont apparaître comme des choses vont disparaître. Si on tombe dans la santé, 24 % 24 % sur une surface d'attaque qui peut être l'équivalent de plusieurs classes d'adresses IP, de services exposés ou de différents services infonuagiques, c'est quand même majeur à se dire que le mois prochain, on a plus de services ou beaucoup moins de choses qu'on avait avant, puis qu'on garder track de tout ça devient excessivement compliqué. C'est sûr que ça varie beaucoup, mais la médiane étant à 24 %, on le voyait de 4 à 40 % de la plupart des organisations, dépendamment du type d'organisation, que ce soit un hôpital ou un service de santé, ça bougeait immensément.
Oui, puis tu regardes l'ensemble des choses, le 24 % médian de la santé, il est le plus grave de la gang, là, de ce que je vois dans les graphes. Là.
Oui, c'était pas mal le pire rencontré. On avait les compagnies pharmaceutiques qui étaient à peu près dans ce coin-là, 24 à 36, et Media Entertainment, 27 % aussi. Donc, la médiane est beaucoup plus haute de leur côté, que ce soit peut-être au niveau des services qui exposent plus rapidement ou avec l'ère des microservices, containers et sécurisation des services, des charges de travail et fonds nuagiques qui dynamiquement créent des services, les détruisent. Je veux dire, plus que l'environnement est dynamique, plus qu'on va avoir une surface d'attaque qui va évoluer dans ce sens-là également. Mais oui, les chiffres le mentent pas. Un mois, c'est vraiment assez fou, là. 4 semaines, puis on a déjà, on peut avoir 20% de plus de ressources exposées ou d'avoir vraiment des choses qui ont bougé puis qu'on n'est pas au courant. Fait que c'est pas simplement des services legacy qu'on trouve puis que ça fait 5-6 ans qu'ils sont là, on les avait oubliés. C'est des nouvelles choses qui ont été créées et pas documentées, pas protégées, qui sont maintenant exposées sur Internet puis qu'on a peu de connaissances ou de visibilité sur ce qui se passe.
Ouais, puis c'est d'ailleurs, c'est ce que je vois dans les graphes, parce que tu parles de legacy, parce que le manufacturier est probablement un des endroits avec le plus grand legacy, et eux ont une variance très faible, puis dans l'ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins problématiques, mais la variance est moins de en santé, la variance est grande, et la médiane est haute. Fait que là, c'est l'ensemble, pour moi, ça me fait peur là, d'avoir ce genre d'informations-là, mais bref.
Ouais, puis la santé, on se dit que c'est nos dossiers de santé personnelle, c'est beaucoup d'informations qui peuvent être critiques à la vie d'un individu. Donc, au niveau de... En plus, on se dit avec les normes HIPAA et compagnie qui régissent le réseau de la santé aux États-Unis, puis ça devrait être super tight comme sécurité, ben désolé de mentionner ça, ça ne l'est pas tant que ça. Constat numéro 3, c'est que la surface d'attaque de chaque organisation est unique. On va encore parler en termes de secteur, mais on va voir à quel point que ça varie grandement entre les problèmes génériques et les problèmes spécifiques. Pour, disons, la vente en gros et le détail. Fait qu'on parle vraiment les compagnies comme Walmart, ce genre de choses-là, qui est vraiment du wholesale. Les problèmes shiftent beaucoup du côté des serveurs RDP. À la place que ça soit 25% blindé de toutes les organisations, eux autres, 65% des enjeux trouvés, c'était des serveurs RDP. Et des serveurs RDP, en plus, à mapper, on parle de toutes ces données-là qui sont accessibles sur Internet directement. Ça prend juste un travail de documenter puis d'avoir les technologies pour le faire. Mais en vente, dans le Darknet, c'est entre 3 et 10 piastres. Quelqu'un qui trouve un serveur exposé puis qu'il n'y a pas les outils pour se dire « Moi, je ne suis pas un groupe de ransomware, je fais juste faire du scraping ou je fais juste comme trouver des ressources. » Ben, il va documenter ça, mettre ça sur un Excel puis possiblement vendre ça à quelqu'un qui peut l'exploiter. Puis dépendamment du cadre de l'organisation, ça se peut que ça soit utilisé à mauvais escient par un ransomware qui achète ces petites listes-là vraiment pas cher. Puis quand on est au-dessus de 60% des problèmes rencontrés pour des compagnies de vente en gros, qui est des serveurs RDP exposés, c'est gigantesque. Puis c'est 8% de ça, c'était des RPC bind servers juste après, ce qui est encore quasiment pire, là.
Ils vivent dans un autre univers complètement de ce que... Ils sont dans une autre planète, c'est littéralement. Là.
C'est dur à dire, c'est des infras vieillissantes aussi qui ont toujours fonctionné comme ça, puis ils se sont juste dit, ben, ça marche, fait que nos accès distants, c'est plein de jump hosts RDP avec des gigantesques fermes, puis on les laisse là. 3389, c'est sécuritaire, yeah! Eh boy, services financiers. Et là, on se dit, notre argent est en sécurité. 54% des problèmes de la surface d'attaque, c'était des serveurs RDP, encore une fois. On pense que les réglementations et les directives de conformité très, très strictes du secteur financier devraient aider à avoir un chiffre comme 0% de serveurs RDP. Mais même avec tout ça, ils ont encore leur croûte à manger là-dessus. Puis sur même si on se dit que c'est souvent des early adopteurs de la cybersécurité, les services financiers et les services d'assurance sont très, très avant-gardistes comparés au reste du marché. De notre point de vue, il y a encore beaucoup de travail à faire parce que...
Ouais, puis c'est une question de avoir une perception, parce que là, on parle quand même d'un point de vue canadien où en cas de la réglementation bancaire et des services financiers est probablement dans les plus sévères au monde. Au niveau américain, par exemple, on regarde les banques, t'as plein de micro-banques qui existent, puis je connais pas ce qui se passe ailleurs dans le monde, fait que ce serait pas étonnant que des micro-banques tombent dans ces environnements-là. Ils ont pas de staff, ils ont pas de moyens, on trouve comme dans des... C'est drôle de dire, mais une banque qui est une PME, là. Fait que cette notion-là est plus existante aux États-Unis. Je ne sais pas ce qu'il y en a d'ailleurs dans le monde. Même chose pour les services financiers. Fait que cet élément-là peut probablement favoriser ce genre de chiffres-là qui sont complètement farfelus à mes yeux, mais en même temps, peut s'expliquer peut-être par ce genre, même si ça ne devrait pas s'expliquer. Peut-être que les organismes réglementaires devraient peut-être sévir davantage ou serrer la vis à la lumière de ces résultats-là. Là.
Mais c'est vrai que c'est tout le secteur. Fait que ça se peut très bien, comme tu mentionnes, qu'il y a des banques en Asie ou des banques côté européen aussi qui viennent d'un petit peu descendre cette moyenne-là. Mais du moins, en tout cas, États-Unis, Canada, la plupart du temps, ils ont quand même de la réglementation assez stricte qui les mettent de l'avant. Mais après les RDP, on se trouve 27% de data storage et des outils d'analyse de données. Et juste après, on a 4,4% de serveurs Microsoft non sécuritaires Exchange, qui ça veut dire qu'ils sont ciblés par un CVE actif et qui ne sont pas patchés. Fait que le secteur financier, ça va pas bien, du moins sur ceux-là qui ont été mappés de l'autre côté.
Sacré votre exchange, genre, migrer sur Exchange Online, faites quelque chose au minimum, là, faites pas ça. Ou aller sur une autre technologie, là, sans dire que c'est la meilleure solution, mais au moins aller vers un service géré qui prend le moins dispendieux puis que vous ne mettrez pas à risque comme ça, c'est épouvantable. Surtout sachant les différentes vulnérabilités que Exchange a connues dans les dernières années, là. C'est juste mal.
Oui, puis c'est honnêtement, là, Exchange devrait plus exister on-premise ou sur un service comme dédié, je veux dire. Il y a tellement mieux sur le marché en service SaaS qui vous donne une infrastructure que vous n'avez plus à gérer, puis qui veut gérer ça de toute façon? To be fair. On tombe dans les services professionnels légaux et là, on a une très bonne nouvelle. Les serveurs RDP ne sont plus premiers dans les problèmes, ce qui est un plus, mais si on voit ce qui ressort vraiment, tout ce qui est data storage est numéro un dans leur surface d'attaque documentée. On parle d'à peu près 35%. Le gros problème, c'est leur numéro 2 qui est les services non chiffrés. Qui fait 15% de leur surface d'attaque, ce qui voudrait dire qu'ils sont excessivement en retard sur tout ce qui est sécurisation au niveau de leurs services exposés, plateforme d'administration ou services web, avec des choses qu'ils n'utilisent pas encore, SSL ou aucun certificat pour sécuriser la communication. Ça inclut le FTP, là, je veux dire.
Si nos bases de données sont sur Internet, visibles comme ça, le fait que le second soit du service non chiffré, il y a une certaine forme, pour moi, une certaine forme de continuité dans le problème et le problème de compréhension de la situation, parce que, come on.
Cette combinaison-là est juste absolument horrible, puis une chance qu'on garde ce rapport-là anonyme, parce que j'aurais peur de savoir qui a cette belle, ces beaux assemblages de problèmes-là, mettons. Et bon, fait que service professionnel légal, hein, encore plus joyeux que d'autres. Secteur de la santé, oh boy. Selon le dernier rapport de Ransomware, on voyait vraiment que les serveurs RDP étaient le vecteur d'attaque préféré pour les rançons logicielles parce que c'est facile à brute forcer. Secteur de la santé pour 2022, en surface d'attaque, 67% à peu près des problèmes trouvés étaient des serveurs RDP exposés. Donc, je veux dire, pourquoi changer une recette qui marche pour les attaquants si il n'y a aucun changement du côté de l'exposition des services pour encore une fois des maudits serveurs RDP. Je commence à être tanné d'en parler. Là, ça, on en est rendu là. Les graphes sont juste trois quarts RDP. En 2023, il y a tellement d'autres façons de sécuriser des services. Je veux dire, il y a des options open source en plus, là, je veux dire.
Oui, puis surtout qu'on a vu plusieurs hôpitaux tomber au travers le monde sur ce genre de choses-là. C'est clairement. Il y a un problème de compréhension des mesures d'hygiène de base en sécurité. Puis c'est drôle de parler d'hygiène de base pour un hôpital, mais dans ce cas-ci, clairement, ça s'applique qu'au domaine de la santé, pas au domaine des TI. Donc, je pense qu'il n'y a même pas d'excuses. On entend beaucoup l'excuse financière associée à ce genre de choses-là. Du RDP public, je trouve pas que c'est une raison. Il n'y a pas une raison financière qui justifie ça, mais cachez ça dans votre VPN, mettez ça dans un autre contexte. Prenez un peu de temps, puis vous allez arriver à quelque chose, mais tu sais, du RDP, c'est comme on.
Puis la plupart des hôpitaux qui ont été ciblés l'année passée sur le rapport de Ransomware ont choisi de payer la rançon pour ne pas avoir d'impact sur leurs opérations. Fait qu'en plus d'être des cibles attrayantes, avec une surface d'attaque principalement de serveurs RDP exposés qui restent là, ben, ils payent la rançon. Je veux dire, c'est une combinaison assez horrible de leur point de vue, mais les attaquants en profitent. Puis je veux dire, qui le ferait pas avoir à quel point que ça change pas?
C'est une business. C'est ça, fort que les gens se rendent compte que les malveillants, c'est une business. Il y a rôle comme business. Fait qu'ils vont s'attaquer à tout ce qui est facile et qui donne beaucoup d'argent. c'est vraiment très, très facile. Fait que ne soyez pas la cible facile et qu'il y ait de l'argent. Là. T'sais, là, soit arrêtez de payer, soyez pas la cible, ou les deux si possible.
Exactement. On tombe dans les secteurs de technologie de pointe. On s'en va vers les big boys, les compagnies de techno. On va avoir un scope différent, ça c'est sûr. On avait 55,6% de portail de gestion d'outils réseau et sécurité d'exposés.
Ça fit exactement dans le profil, genre les dudes techno qui veulent chiller à la maison puis veulent faire les affaires sans trop se casser la tête. C'est ça qu'ils ont fait, ça fit le profil.
Yes, service SaaS, les portails d'administration, il n'y en a pas de problème. Je vais ajouter des bandes sans fil de chez moi, puis tout est normal. Et en deuxième, en plus, pour accompagner cette recette-là, du FTP non encrypté. 7% à peu près. Ce qui est pour de la technologie de pointe, FTP, je veux dire, c'est désuet depuis combien de temps? Je veux même pas savoir qui utilise encore FTP pour transférer des données avec l'ensemble des services sécuritaires qu'on a, comme les Dropbox, OneDrive, G-Drive de ce monde, avec MFA, avec l'encryption.
Si on veut faire ça maison, du SSH de base, c'est super pas compliqué à installer. Tu sais, je dis, OK, il y a 10, 15, 20 ans, qu'il y avait une certaine complication à mettre du SFTP. Maintenant, tu installes l'OpenSSH et c'est inclus. Ça va dedans. Fait qu'il n'y a même plus de raison de faire autrement que ça, à moins qu'on ait, dans certains contextes, très particuliers, mais même encore là, je vois aucune raison de faire ce genre de nos jours, de faire ce genre de choses. De toute façon, tout devrait chiffrer. Là, dans les consoles plus haut, là, tout devrait être chiffré. C'est même plus des questions. Il n'y a même plus de... Bref.
Il y a des options FTP sécurisées, FTPS, SFTP. Comme tu dis, OpenSSH nous donne... on peut transférer des choses avec ce protocole-là, avec des clés d'encryption, puis vraiment très, très bonnes. Alors que là, c'est vraiment... On voit ça en clair. Là. FTP de base 21-22, transfert en clair sur Internet.
C'est fou. Tu sais, quand j'installe mes affaires de base, je fais même pas l'effort d'installer un FTP. Parce que de toute façon, mon interface de gestion est en SSH. Fait que le SFTP, il est là. Fait que, tu sais, pourquoi je me casserais la tête pour rajouter un taux de service en plus? Tout est là, c'est sécurisé, built-in avec toute la structure. Puis ensuite, bon, tes affaires de clés, puis machin et tout, là, quand tu veux vraiment aller plus loin, MFA, machin. Mais minimalement, le protocole, il est quand même mieux. Puis c'est built-in dans tous les systèmes modernes.
Oui, puis tu t'en vas sur une page web HTTP, il te prévient que tu n'es pas en HTTPS. Pourquoi tu flagues pas FTP? Tu sais, en plus, que ça se prend un client pour aller chercher ça ou pour avoir un transfert qui a de l'allure. On va tomber autre part après ça, les secteurs de l'énergie et des services publics. Qu'est-ce qu'on voit d'exposé? Ça ressemble un petit peu au portrait des technologies de pointe. C'est l'exposition des pages d'administration TI, encore une fois, qui est exposée à hauteur de 41% à peu près. Et en deuxième, les systèmes IoT. Ça, c'est absolument pas surprenant. Je veux dire, les services publics, n'importe quoi qui va être allumé, un phare ou une lumière à un coin de rue ou de relayer de l'information pour un panneau, ben ça passe par du IoT. Fait qu'à la quantité qu'ils ont, le fait que ce soit directement sur Internet, c'est ça qui est inquiétant. Je veux dire, c'est un focus primaire pour ce secteur d'entreprise-là, d'avoir vraiment un contrôle là-dessus, parce que c'est littéralement ton business. Tu devrais avoir un meilleur contrôle de ce côté-là. Ça, c'est sûr. Pour le reste, j'ai un petit survol pour les trois secteurs qui me restent pour donner un aperçu, mais il va y avoir des portraits qui vont se ressembler beaucoup. Transport logistique va avoir 50% à peu près de serveurs RDP d'exposés. Donc, ça pourrait être compagnie de transport ou n'importe quoi. Très axé là-dessus. Le reste étant aussi des portails d'administration TI à 22% qu'on trouvait encore une fois exposés sur leur surface d'attaque. Côté médias et divertissement, beaucoup plus les données, le storage et les outils d'analyse de données qui se retrouvent exposés sur Internet à 47%. Serveur RDP, jamais trop loin derrière de toute façon, à 28%. On trouvait même des serveurs SMB de co-located, donc dans le fond utilisés pour plusieurs services partagés. directement sur Internet. Celle-là, j'ai mes yeux enviré une couple de fois en pensant que c'était possible d'exposer ça sur Internet. Mais oui, on peut apparemment exposer un service SMB directement sur le net.
Wow, tu sais, ça me rappelle le temps, puis ça, on est loin, là, dans le temps où on était avec un câble Vidéotron, qu'on voyait tous nos voisins qui avaient laissé leur SMB NetBIOS ouvert sur leur Windows 95 ou 98, puis on était capable d'aller garocher des choses sur leur desktop. Là. Tu sais, là, on est vraiment dans un autre univers là, du SMB sur l'Internet. Celle-là, c'est vraiment, c'est ultra old school, là, mais ultra, là, c'est malade.
Même là, exposer ça, je sais pas à quelle utilité ça peut... Mais bref, c'était là. Il y en a qui veulent... Ils jurent que par SMB, puis c'est leur vie. Fait qu'ils ont dit, mon protocole, je l'expose, puis je vais le maintenir jusqu'à vie.
C'est même pas performant en termes de d'efficacité. C'est pas... Pour ce genre de choses-là, c'est zéro performant. Là. C'est pas fait pour... Surtout pour du réseau à plus haute latence comme Internet. À l'interne, c'est correct, là, mais en dehors de ça, c'est pas fait pour ça. Ça n'a jamais été constitué pour ça. C'est juste terrible.
Je pense qu'il y en a qui veulent conserver les mappings de drive manuels avec les GPO, puis ils se sont dit, ah, on va exposer le serveur sur Internet là, pour que le gars il continue à avoir ses drives de mapper chez eux.
Oui, il passe son script de démarrage, son script de choses, puis il map ses drives directement sur Internet.
Il est vraiment content qu'il a réussi à faire ça, puis on fait comme non.
Ah, faites pas ça, c'est vraiment terrible. C'est vraiment... Puis, tu sais, j'imagine que si la chose, ça va être du vieux SMB en plus. Probablement, ça va être même pas du SMB3, ça va être du SMB2 ou même pire 1. Là.
Ça, c'est absolument possible. J'ai malheureusement pas la donnée pour savoir c'est quelle version, là, mais je vois. Juste que ça existe, je savais même pas. Et on termine avec le domaine des assurances, qui en premier, deuxième et troisième, on va retrouver encore nos stockages de données, serveurs RDP et les portails d'admin. Mais on va avoir aussi 7% de serveurs SharePoint directement sur Internet. Pour une raison obscure, puis il y a encore des gens qui exposent ça directement alors que ça devrait être des données derrière un firewall, derrière un VPN ou derrière n'importe quoi si on n'est pas rendu en mode cloud ou avec une infrastructure sécurisée. Et 4% de RPC bind server directement sur Internet. Parce que pourquoi pas l'ajouter au mix?
Ouais, ben ça, sont vraiment, c'est drôle parce qu'ils sont vraiment très diversifiés par rapport aux autres. Ils ont vraiment un étalage complet de deux choses. Mais je l'ai donné sur SharePoint parce que j'ai eu déjà ça il y a quand même très longtemps. Un client sur lequel justement il avait exposé leur SharePoint en ligne pour la prestation, je ne me rappelle plus pourquoi. Puis j'avais détecté que c'est un SharePoint, pas parce que j'avais fouillé un peu, mais c'est parce que le temps de la page d'authentification avait levé comme un SharePoint. Là, j'étais comme ben qu'est-ce que je fais là dans une affaire qui me met. Il voulait m'installer. Ah non, c'est vrai. Je me souviens, j'avais le gars avec Safari pour aller sur le site. Puis comme j'avais pas Internet Explorer, normalement, c'était sous-marin, l'espèce de communication avec SharePoint. Mm-hmm. Safari, j'avais jamais, il me posait la question, qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu installer un bidule machin X de SharePoint? Je fais comme, ben non, moi j'essaie un site Internet, je veux pas installer de SharePoint sur mon ordinateur. Mm-hmm. Chose que j'avais relayé au client, puis là, il avait été comme un peu étonné. Il me disait, mais là, mais qu'est-ce que tu avais fait de mettre ça sur SharePoint, sur Internet? Là, je dis, oh, c'est quoi cette histoire-là? Mais je suis pas étonné de le voir là pour les assurances. J'en ai vu d'autres. Je sais pas pourquoi les gens font ça. C'est un drôle de plan, là. Mais ben, c'est des systèmes qui sont faits pour l'interne, mais vraiment pour l'interne. Et je vais faire un petit aparté sur le fait que j'ai vu des gens qui voulaient utiliser les services M365 pour faire de la prestation clientèle vers l'extérieur. Là, je fais comme, ben non, mais pas ça. Vous avez vos services bureautiques que vous exposez à Internet. C'est pas parce que le M365 est sur Internet que vous devez exposer à votre clientèle la même chose que vos affaires. Il y a comme une compréhension qui est encore un peu manquante chez quelques-uns de mes clients, mettons.
Oui, c'est un petit peu étrange de voir ça, alors que SharePoint, je pense que c'est quasiment dans leur slogan que c'est intranet. Je veux dire, il n'y a pas inter dans le mot. Là. Fait qu'il faudrait déjà prendre avec un grain de sel tout ça. Pour donner une petite idée, parce qu'on jase de pourcentage depuis tantôt, puis on n'a pas de chiffres exactement concrets pour montrer le nombre d'instances. Fait que j'ai pris RDP, puis je me suis dit, on va mettre un exemple concret pour de chiffres de ce qu'on voit. Pour prendre, disons, le pire, notre service de high-tech, donc de nos entreprises dans la fine pointe de la technologie, le nombre de serveurs RDP qu'on a trouvé au total pendant le scan de en bas de 1% du spec du Global IPv4 Space, c'était 400 000. 400 000 serveurs RDP, 397-615 pour le chiffre exact, qui étaient exposés directement sur Internet dans ces organisations-là. Puis on parle d'un nombre de jours d'exposition de ces instances-là moyen d'à peu près 9,7 jours. Ce que ça veut dire, c'est qu'à peu près du moment qu'on le constatait jusqu'au moment qu'il était soit retiré ou qu'il était corrigé ou qu'il avait décidé de plus le rendre exposé sur Internet, on voyait ça pendant 10 jours. Ces chiffres-là vont varier énormément dépendamment du secteur d'entreprise et du nombre de la qualité un petit peu du service que ces entreprises-là vont donner. En transport et logistique, c'est ceux-là qui avaient le nombre d'expositions le plus longtemps, avec 13,5 jours en moyenne qu'un serveur RDP reste exposé. Mais il y en avait, on a trouvé que 24 000 en moyenne. Tandis qu'inversement, il y en a qui vont en avoir dans le pharmaceutique, on était à plus à 53 000, alors c'est ceux-là qui avaient la meilleure moyenne. Leur serveur RDP restait exposé en moyenne 4 jours. Fait qu'on le constatait, on le documentait, il avait disparu. Puis on remet un petit peu en perspective que ce genre d'informations-là qu'on apprend, c'est en vente dans le Darknet, là. C'est entre 3 et 10 $ qu'on peut acheter cette information-là du serveur RDP qui est présentement en ligne. Qui va, on sait que dépendamment du secteur, comme disons, on sait qu'il faut le secteur de la santé, c'est environ 5 à 6 jours que ce serveur va rester là, fait qu'ils ont une fenêtre déjà qui achètent puis qui peuvent tenter pendant 5 à 6 jours, qui sont convaincus que ça va rester là. Puis plus le secteur d'activité permet une exposition longue, moins c'est plus que ça va être facile de rentrer parce qu'on a plus de temps pour s'essayer. Et ça variait grandement, là, c'est ça. Dans le secteur de high-tech, on était à 400 000 qu'on en a trouvé. Dans le média et divertissement, 334 000. Services juridiques, 128 000. C'est 128 000 serveurs là, atteignables pendant la durée. Si on fait le total, on en avait peut-être proche d'un million là, qu'on a scanné, documenté avec Cortex Expense. Constat numéro 4, fin de vie égale début d'attaque. Fait qu'un petit peu, personne n'aime les versions en fin de vie là, des logiciels, mais sauf les pirates. Puis qu'est-ce qu'on a trouvé de façon un petit peu plus poignant sur cette documentation-là? On a trouvé 4 enjeux majeurs qui ont ressorti. Les serveurs Web Apache, Confluence, Microsoft Exchange, surprise, surprise, et les serveurs Zoho Manage Engine, qui ont été très populaires l'année passée parce qu'ils ont eu une tonne de gros CVE qui ont impacté leurs services en ligne. Et là, ça va frapper. Serveur Web Apache avec un CVE qui date de 2021. Il faut se rappeler qu'on fait le scan en 2022 puis qu'on map tout ça puis que le rapport agrège ces infos-là. On a 2 CVE qui sont notés 7.5 et 9.8, les 41.7.73 et 42.0.13, qui permettent du RCE, donc du Remote Code Execution. 32% des organisations analysées utilisaient des services web exposés à Apache avec une version fin de vie. Et ce, même après 4 mois que le correctif était disponible. Fait qu'on n'est plus vraiment dans une option zero day si 4 mois après, le serveur est encore vulnérable. Comme Nicolas mentionnait, c'était le zero day, tout le monde fabule là-dessus, tout le monde se focus en se disant mon organisation doit être au plus proche de la prévention possible. Mais là, on est à l'inverse, on oublie des serveurs web, des services importants à l'entreprise qui sont 4 mois pas patchés. Puis que nous, si nous on peut le trouver, dites-vous que n'importe quel pirate ou rançon logiciel va le trouver.
C'est déjà trouvé et inventorié. C'est ça qui est le problème. C'est que les gens peut-être ne maîtrisent pas. Puis effectivement, puis je trouve ça, c'est pas zéro day parce que c'est pour avoir été opéré un SOC pendant un temps. Tout ce que j'ai vu à l'état de l'organisation, qui est quand même une dizaine de mille de personnes, on n'avait rien d'exceptionnel là, d'attaque. Et c'était vraiment très, très basique ce qu'on voyait passer. Et ça réussissait parce que ça réussissait à tromper les gens. Mais ces affaires-là, c'était facile. On les voyait arriver gros. Mais il faut qu'au minimum qu'on ait des moyens pour se protéger, qu'on ait des moyens de détecter. Mais c'est juste... c'est jamais sophistiqué. C'est toujours dans ces zones-là. Fait que, bref. S'il vous plaît, réglez ça parce que vos socs, si vous en avez un, puis j'espère que vous en avez un, vont vous aimer parce que vous allez retirer tellement de surface d'attaque. Donc, vous allez permettre à votre soc de se concentrer sur ce qui est pertinent, parce que là, tu sais, quand on doit gérer des alertes pour des affaires comme ça, parce qu'on voit les attaques, puis on devient de découvrir que le service est apparu de nulle part parce qu'on n'avait pas de service de système de gestion de surface d'attaque. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir un système de gestion de surface d'attaque parce que ça sauve beaucoup de temps. C'est la base.
Alors, puis c'est 11 500 instances qu'on a trouvées, là. C'est pas c'est excessivement utilisé Apache. Ça devrait être un déclic instantané d'avoir une bonne gestion de correctif. Puis on parle que là-dessus, là, il y avait sur les. On est rendu à Apache, je sais plus combien, je suis pas personnellement les versions, mais du temps du scan, les versions patchées étaient dans des versions 2.4.x. Puis on trouvait encore des 1.3, là. Exposé sur Internet, là. Fait que c'est pas juste deux CVE critiques qui sont impactés. C'est probablement tout ce qui est depuis 2 ans accumulé jusqu'à aujourd'hui, que pour 3% des organisations, il y avait encore ça qui est exposé. Notre deuxième était Confluence. Ils ont publié un gros CVE en 2021 encore, qui était 9.8, qui est le 26.084. C'était exploité dans la nature à partir de septembre. C'est de l'exécution de code à distance non authentifié, nos favoris, qui affectait beaucoup, beaucoup de versions. À peu près 29% des organisations analysées utilisaient une version vulnérable après 5 mois de correctifs disponibles. On parle de 2700 instances environ. Encore une fois, c'est dur de considérer un peu que des choses classées excessivement haut comme CVE, que le manuf t'a envoyé un courriel, là. T'as probablement un gars de sécurité qui t'a flagué ça, mais pourtant, 5 mois après Zero Day, c'est plus Zero Five Months, là, rendu là, c'est exploitable. Ils peuvent passer. Le monde a fait des preuves de concept. Il y a des toolkits qui existent déjà après 5 mois. C'est plus pardonnable, là, pour une organisation.
Ouais, puis je vais racheter Atlassian, ça là, parce que de toute façon, vous mentionnez que c'est tous des éléments de services non gérés. Ça nous rappelle qu'il faudrait peut-être déplacer des services, on parlait d'Exchange, déplacer un service géré. Atlassian a d'excellents services gérés. Il n'y a pas vraiment de raison de maintenir ça encore sur site, à moins d'avoir vraiment des préoccupations de sécurité supplémentaire, de confidentialité. Mais si vous êtes dans cette zone de confidentialité, de sécurité supplémentaire, normalement, on ne devrait pas vous trouver dans ce rapport-là non plus. Donc, incidemment, si vous êtes dans ce rapport-là, vous devriez peut-être migrer vers des services gérés et ça presse parce qu'il n'y a aucune raison pour Exchange, pour Atlassian, de ne pas utiliser leurs services qui sont quand même assez top, puis qui, eux, sont majoritaires. Ils ont eu quand même des petits avaries, là, c'est pas parfait, mais dans l'ensemble, c'est déjà beaucoup mieux que qu'est-ce qu'on peut avoir en entreprise, puisque surtout avec ces chiffres-là.
Ouais, mais c'est surtout ça, c'est les gens sont habitués avec les tests de pénétration de tester ce qui est connu, mais une organisation qui évolue vers le cloud, qui migre, qui déplace des services, qui change de stratégie, bien souvent, il y a peut-être autant des choses legacy que des fois des développeurs qui essayent des choses ou qui exposent des services. Le cloud permet tellement de dynamisme qui n'a jamais été vu avant que ça faut le contrôler. Notre troisième joueur va être Microsoft Exchange. Encore une fois, je pense que j'ai 8 CVE qui datent de 2021, qu'on avait encore 29% des organisations en 2022, fait que 3-4 mois plus tard, qui étaient tous vulnérables à ça, sur des versions même jusqu'à 2013 qu'on a trouvé. Exchange 2013, je ne savais même pas que c'était encore supporté. Mais 4% de serveurs 2010 aussi. Pour faire changement, ouais, pourquoi aller pire? Ah. Et notre Zero Manage Engine, que lui, possiblement, je ne sais pas pourquoi que les gens ont été moins informés sur celui-là, mais 74% des instances étaient vulnérables à 2 CVE critiques, dont une qui était catégorisée comme activement exploitée, les deux étant 9.8. Il y avait une qui est par REST API qui permet de bypasser l'authentification. Puis l'autre, c'était directement sur le portail web. Puis les serveurs qui étaient patchés pour les deux vulnérabilités 9.8, c'est 26%. Le reste était tout vulnérable.
Je pense que j'ai quand même une hypothèse pour ça, parce que ces genres de services, soit que les gens ont installé il y a genre 15 ans parce qu'il y avait une affaire gratis ou machin, ou ils sont fait installer un bidule comme ça, puis ils l'ont probablement jamais entretenu, parce que tu sais, je les vois, si Zoho passait dans certaines choses préfaites ou de packages préfaits qui s'installent facilement pour une petite PME qui n'a pas de capacité, ça serait pas étonnant que ça soit dans cette sphère-là. Il y a peut-être dans le cas du Zoho de rehausser peut-être l'automatisme de mise à jour justement pour éviter cette situation-là, parce que là, on se retrouve vraiment dans des modèles ou des PME qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. 74%, c'est vraiment très élevé, mais pour savoir ce que je vois dans le monde des PME, je ne serais pas étonné que ce soit. Genre, il y a un genre un setup d'installation automatique comme ça dans le serveur, pouf, ça marche, et on n'a plus jamais retouché, puis ça fait genre 15 ans que ça roule.
C'est absolument pas impossible, mais c'est des choses qui sont exposées direct sur Internet puis qui peuvent être activement exploitées. Fait que pour des gens qui font juste regarder un petit peu what's out there, il y a des choses à faire, ça c'est certain. Et notre dernier constat, qui est un petit peu de remettre en perspective que les déploiements dans le cloud sont faciles, mais la sécurité cloud, c'est difficile. Tout ce qu'on a documenté présentement, on se dit « Ah, ben c'est peut-être des serveurs qui sont sur des infra on-premise, c'est peut-être dans mon data center. » Par source d'observation, 80% de ce qu'on a scanné, documenté puis analysé, c'est du cloud. 80%. Donc, c'est souvent des services qui ont été migrés dans le cloud ou même des nouveaux services, mais c'est dans le cloud. Donc, c'est pas quelqu'un qui a oublié un serveur racké une place là, dans un data center.
Non, c'est pire. C'est quelqu'un qui a oublié un serveur virtuel racké dans un info nuagique. Là. C'est encore plus terrible. Puis là, il a fait l'effort de déplacer son serveur poche dans l'info nuagique, parce qu'il y a eu quand même un effort de le faire. Là. Parce qu'on ouais. Là, on n'est pas dans des. Parce que c'est pas des services gérés. Parce que dans ce que tu as nommé, il y en a plusieurs qui sont des services qui peuvent être des services gérés. Qui, naturellement, ne sont pas vulnérables au CVE, entre autres. Mais les gens vont juste payer leur guenille sur site, puis ils vont juste les garracher en infonologique en pensant que ça va régler le problème. Et c'est là que les gens ne comprennent pas que non, ta guenille poche sur site, elle va être aussi poche en info nuagique.
Elle va même être plus compliquée à sécuriser, parce que là, tu arrives avec plein de concepts de « Ah ben là, j'ai des VNet, j'ai des UDR, j'ai des NSJ, j'ai plein d'autres technologies que souvent les gens qui gèrent les serveurs sur site, qui envoient dans le cloud avec les beaux programmes Microsoft Accéléré, Lift and Shift, prends ta VM, copie-la là-bas, ça va marcher. » Ben, ça fait qu'à sécuriser par la suite, ça devient un enjeu majeur, parce que hey, s'il est rendu dans le cloud, il marche, c'est plus ma responsabilité. Non,
c'est pas
désolé.
Exact. Puis c'est là où les gens oublient, c'est quand on embarque dans un service géré comme M365 ou Google Workspace, par exemple, la charge sur le fournisseur est très grande et notre charge est très petite. L'inverse, quand on fait juste déplacer notre guenille de notre centre de données vers le centre de données infonologique, il y a essentiellement aucune différence de responsabilité entre les deux, sauf que c'est dans des technologies nouvelles et avec la probabilité qu'on soit exposé sur Internet sans faire exprès.
C'est tellement facile d'assigner une IP publique à mon service. Tu fais juste Next pour créer une VM, il t'en assigne un tout seul, puis c'est déjà rendu. Pour donner une idée des problèmes qu'on a jasé tantôt, pour les serveurs Apache Web, là, spécifiquement pour ces serveurs vulnérables-là, 96,5% étaient dans le cloud. 3,5 on-premise. Fait que c'est vraiment des services qu'on est supposé mieux contrôler. Il y a des suites d'outils pour de mise à jour, puis de documentation d'assets, puis d'inventaire qui se posaient tout cloud, tout nous aider. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est rendu plus un problème qu'autre chose. Même chose pour les serveurs Microsoft IIS qu'on a trouvé non sécuritaires. 78% de ces serveurs-là étaient dans le cloud. La seule exception à ça, c'est les serveurs Microsoft Exchange, ironiquement, qui étaient 85% on-premise. Fait que c'est vraiment l'exception à la règle. Ça devrait juste pas avoir de section Microsoft Exchange rendue en 2023. Là. On s'entend que j'ai hâte que le prochain rapport sorte pour voir un peu comment ça a changé comparé à 2022 versus 2023, mais si les gens ne sont pas rendus sur des services SaaS pour leur suite de courriel, SMTP, là, ça devrait plus être un standard de communication pour qu'une organisation gère ça à cette heure.
Oui, on devrait changer effectivement. Puis ça, les chiffres-là sont très intéressants à voir à quel point les gens balancent dans l'infonologique sans savoir ce qu'ils font. Puis ça, c'est terrible à certains égards. Même le IIS, le fait que Microsoft a tellement de beaux services dans Azure qui peuvent remplacer un IIS de façon sécurisée et dans lequel on n'a plus à gérer la maudite stack en dessous de sécurité puis qu'on délaisse ça à Microsoft qui est franchement meilleur que la plupart des organisations que je connais pour gérer ça. Là, je comprends même plus pourquoi on fait cet effort-là. Tu veux dire, un trip techno, je peux comprendre, là, mais techno dans ton sol, ça va. Mais tu fais pas de la production avec un trip techno. Tu t'embarques sur des systèmes matures, sur des systèmes robustes, des systèmes qui sont plus ça. Mais que les gens, c'est le temps que les gens se réveillent.
On l'espère du moins. Ça serait le fun que. Mais bref, c'est des fois c'est peut-être des choses que les gens ont aucune connaissance que ça existe parce que on a 8 équipes de développement sous nous autres, on a un manque de communication, tout le monde développe de leur côté en silo, ce qui crée un petit peu une surface d'attaque qui est souvent hors de contrôle pour certaines organisations qui ont de la misère à avoir la visibilité. C'est un petit peu pour ça que ces nouveaux services-là arrivent aujourd'hui. Donc, tout ce qui est Attack Surface Management, AASM, qui est le nouveau aussi récemment, qui est de l'Active Attack Surface Management, qui inclut la remédiation, fait qu'un serveur qui apparaîtrait sur notre surface d'attaque, exemple, un service RDP avec le port ouvert, ben on pourrait y remédier automatiquement parce que ça ne fit pas dans notre politique d'organisation. Fait qu'il y a un besoin pour ça, puis ce rapport-là fait juste indiquer que mettez-vous le nez là-dedans. Cherchez, fouillez un peu, puis des fois, ça va. Vous allez peut-être régler beaucoup plus de problèmes en regardant correctement c'est quoi votre périmètre de sécurité que gérer le petit zero day sur un système de mission critique qu'on va tendance à plus s'occuper, mettons.
Ouais, ça revient régler l'hygiène de base, puis on va régler bien les problèmes à ce moment-là. Mais ces outils-là sont très pratiques. Je les aime beaucoup parce que justement, ça donne une visibilité globale. Puis ce que les gens oublient un peu peut-être en sécurité, c'est que si on n'a pas de visibilité, on n'est pas capable de sécuriser. Donc à ce moment-là, ce serait très important. Puis ça, c'est utile à la visibilité, donc de justement s'outiller correctement pour être capable d'aller plus loin puis justement de pas faire partie du rapport pour 2023.
On l'espère du moins.
C'est parfait, mais ça fait pas mal le tour, je crois.
Yes, on a pas mal fait le tour de nos 5 constats, puis j'ai rien de plus terrible à discuter pour cette édition.
Je trouve juste ça amusant parce que c'est les mêmes constats qu'il y a 10 ans, fait qu'on revient, l'histoire se répète, mais bref, faut prendre ça avec un grain de sel pour les experts en cyber, ne pas déprimer parce que l'histoire se répète, puis juste justement garder le moral, là, mais les autres, faut come on, réveillez-vous.
Faut déclencher quelque chose, puis ça serait le temps.
Ouais, merci.
Toujours un plaisir.